Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est une réunion importante qui se déroule à partir d'aujourd'hui, lundi jusqu'à mercredi à Tunis, une réunion méditerranéenne pour réfléchir ensemble sur le rôle du secteur privé dans le développement en Libye. Alors la formulation comme ça peut sembler un peu vague, mais quand on parle du secteur privé, en fait on pose la question de la reconstruction et des opportunités d'investissement qu'il y a aujourd'hui en Libye, car la Libye est un pays qui va se retrouver quasiment à reconstruire entièrement, notamment le secteur des infrastructures, le secteur par exemple de la route, le secteur hospitalier, le secteur éducatif, l'informatisation du pays. C'est quasiment toutes les strates de la société libyenne qui aujourd'hui ont besoin, si ce n'est d'être reconstruites, en tout cas d'être remises à niveau après toutes ces années de guerre. Donc il est important que ces pays réfléchissent, qui plus est parce que nous sommes en présence d'un terrain très concurrentiel. On sait que les Égyptiens ont au minimum la volonté d'envoyer 1 million de travailleurs en Libye pour participer à l'effort qu'il va y avoir de reconstruction. Il y a également les pays du pourtour de la Libye qui sont intéressés, hein, le Maghreb, mais aussi plus à l'est, il y a la Chine, il y a les grandes puissances, il y a après les majors de l'industrie mondiale, hein, qui peuvent avoir envie aussi d'y investir, par exemple sur le dossier de l'eau. On sait combien la France est disposée à travailler et s'investir sur ces secteurs-là. Donc il y a aussi le secteur automobile qui peut intéresser à la fois l'Inde, mais pourquoi pas aussi les États-Unis. Donc voilà, quand on réfléchit aujourd'hui au secteur privé de la Libye, on réfléchit d'ores et déjà à l'après-élection qui se dérouleront à la fin de l'année. C'est tout le sens de ces 3 jours de débat qui vont avoir lieu à compter d'aujourd'hui à Tunis. Revenons à des dossiers purement tunisiens. Il y a à faire beaucoup de travail à faire. Ce sont les recommandations du Bureau des Nations Unies pour l'Habitat qui a étudié la situation en Tunisie et elle est bien inquiétante, cette situation. 27,5% des Tunisiens, donc plus d'un quart de la population, eh bien, est sujet à la vulnérabilité sévère ou très sévère quant à son habitat. Les gens n'ont pas les moyens de se loger dignement avec toutes les commodités qui sont aujourd'hui absolument nécessaires en ce début de 21e siècle. L'eau, l'électricité, avoir le gaz à la maison, avoir un ascenseur qui fonctionne, ne pas avoir des lieux insalubres avec de l'humidité qui fait que les enfants vont tomber malades, etc. etc. Donc il y a aujourd'hui nécessité de travailler en Tunisie sur les sans-abri, lutter aussi contre les expulsions parfois forcées, parfois sociales, qui peuvent être faites à l'encontre de personnes qui sont totalement démunies et qui se retrouvent finalement jetées à la rue, ce qui veut dire aussi donc revoir la stratégie du secteur du logement et puis aussi travailler à la lueur de cette pandémie qui a sollicité, on le sait, les services sanitaires, les services de base dans les bidonvilles. C'est-à-dire que quand on a une maison qui est fragile, qui est en mauvais état, on quasiment une tente, et si en plus on n'est pas soigné, cela accroît les risques de maladie, les risques de désespérance personnelle, sociétale, familiale. Il faut absolument se ressaisir sur ce dossier. En Algérie, l'Ordre national des médecins tire la sonnette d'alarme. Il y a inquiétude avec des départs massifs de médecins. Alors il s'agit de radiologues, de néphrologues, d'anesthésistes réanimateurs, de psychiatres ou d'autres spécialités médicales, de gens qui ont été formés en Algérie et qui vont quitter le pays en raison du régime, en raison des conditions de vie, des conditions d'exercice, de la santé. On sait que c'est difficile, on sait que la pandémie de coronavirus a été une séquence extrêmement sollicitante pour toutes les personnes qui sont impliquées dans le secteur de la santé en Algérie. Et c'est un véritable drame. Il y aurait, selon l'Ordre national des médecins algériens, environ chaque semaine une cinquantaine de médecins qui déposent un dossier dans une ambassade pour quitter le pays. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait inquiétants. Et actuellement, sur les 15 000 médecins algériens qui exercent en France, 5 000 sont en cours de régularisation. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas revenir dans ce pays. Ils veulent le quitter, ce qui doit être un déchirement d'ailleurs pour ces médecins, pour ces hommes, ces femmes qui l'avions à prix, cela a coûté cher à l'État algérien. Ce sont des investissements que le pays fait pour sa propre population. Or, les conditions de vie aujourd'hui sont telles en Algérie que les gens s'en vont. Alors, ceux qui sont totalement démunis partent par bateau, ils prennent la mer et les autres, ils prennent l'avion après avoir régularisé une situation et obtenu un visa pour rentrer légalement dans l'espace Schengen. Ils ont une formation algérienne, mais ils vont travailler dans l'espace Schengen. Pourquoi ? Eh bien parce que la vie est plus conforme à l'idée qu'ils ont. C'est un mot qui a fait mal, qui a été prononcé par l'Arabie Saoudite, estimant que traiter directement avec les autorités de Beyrouth était inutile au regard de la domination du Hezbollah soutenu par l'Iran dans ce pays, dans ce Liban bien en souffrance, avec, on peut le comprendre, une certaine réaction de la part des autorités politiques libanaises, estimant qu'il faut maintenir le lien avec les autorités nationales de Beyrouth. Alors effectivement, il y a cet énorme problème de domination des chiites du sud du pays, du Hezbollah, qui aujourd'hui sont très 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 influents au plus haut niveau à Beyrouth. Il y a aujourd'hui une tension, des incompréhensions, va-t-on dire, entre l'Arabie Saoudite et le Liban. Et ces incompréhensions s'expriment par exemple à travers ces mots qui sont ensuite mal perçus par les diplomates libanais. Akhundzada, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est le chef des talibans. C'est un homme très discret. La dernière photo qui existe de lui a été prise en 1996. C'est pourtant le chef de ce mouvement tout à fait important qui a pris le pouvoir à Kaboul en 2016. Il aurait été vu dans un marché. Alors, il n'y a pas vraiment de photos, il y a des vidéos qui ont été faites, mais les images sont floues, de médiocre qualité. Elles ne permettent pas d'attester que l'homme est vivant, et d'une, et de deux, que l'homme était bien dans ce marché à Kandahar, en train de saluer des habitants qui étaient en train de faire leur course. C'est une apparition qui est importante parce que si elle venait à être confirmée, et seulement si elle venait à être confirmée, cela pourrait dire qu'il y a la tendance dure des talibans qui prend le pas sur la tendance plus pro-occidentale des talibs, qui est incarnée par Abdul Ghani Bahadar, qui était le négociateur du temps de la guerre, celui qui faisait la négociation des talibans avec les États-Unis à Doha. Il y a toujours cette rivalité. On se demande si le fait que Akhundzada soit apparu ne signifie pas que la tendance dure des talibans veut réaffirmer sa présence et veut dire qu'elle a la main aujourd'hui sur les talibs qui sont plus modérés. Asie majeure, mineure, dièse ou bémol, Asie mute. Notre destination aujourd'hui est l'Iran, avec ce rejet quasiment en bloc des propositions occidentales de reprise des discussions avec l'Iran pour parler de son programme nucléaire. Mais enfin, c'est vrai que les Occidentaux sont assez fermes dans leurs propos. Ils disent, les Français, les Allemands, les Anglais, les Américains, ils disent qu'ils ont besoin d'y voir plus clair sur ce que font les Iraniens. Eh bien, les Iraniens ont rejeté dans une déclaration qui a été lue récemment, disant « finalement, ce que nous demandent les Occidentaux ne colle pas à la réalité ». C'est l'expression qui a été formulée par les Iraniens. Et donc, cela confirme que finalement, les Iraniens n'ont que peu d'intérêt pour aller à la table des discussions sur le nucléaire, puisqu'ils doivent partir du principe, de l'idée que finalement, avec le discours du 5+1, il n'y a pas grand-chose à acquérir dans une négociation avec les Occidentaux, parce que de toute façon, ceux-ci vont réclamer la fin du nucléaire militaire, ce que les Iraniens ne veulent pas. Ils veulent aller jusqu'au bout de ce programme. Donc pourquoi finalement retourner à une table de négociation si de toute façon on sait que quoi qu'il arrive, on ne sera pas d'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui les Iraniens se tournent vers la Russie, avec laquelle ils signent des accords stratégiques, avec la Chine, avec qui aussi ils signent des accords stratégiques. C'est pour ça aujourd'hui que l'Iran commence à tourner le dos aux Nations Unies et commence à se tourner vers l'OSCE. C'est pour aujourd'hui essayer de vivre sur un monde où il y a d'autres organisations. Ça, c'est la posture de Téhéran. Maintenant, c'est vrai aussi que les Américains, ils sont toujours là. Et aujourd'hui, on se rend compte que les tirs de missiles qui sont organisés par des groupes armés qui sont en fait des proxys du corps des gardiens de la révolution iranienne, donc les Pasdaran, tous ces groupes armés qui sont en Irak, au Liban, au Yémen ou même parfois en Afrique de l'Est, les Américains sont fatigués de subir les tirs, alors pas directement sur eux, même si c'est arrivé récemment, hein. C'était la semaine dernière, sur Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie. Il y a des drones iraniens chargés d'explosifs qui ont été lancés et qui ont frappé des installations des troupes américaines. Donc ce sont des tirs qui sont réels, mais ce ne sont pas toujours les Américains qui sont menacés. Ça peut être également des alliés des Américains. Et ça, aujourd'hui, Washington n'en veut plus. Alors jusqu'à présent, Joe Biden était sur une posture, somme toute, assez conciliante. Un objectif vraiment des Américains était de faire revenir l'Iran et d'essayer d'amorcer un dialogue, de laisser entrevoir des possibilités de solutions. Il y avait vraiment un effort puissant, va-t-on dire, de la diplomatie américaine pour que les Iraniens reviennent. Et bien aujourd'hui, à travers cette déclaration, on se dit que maintenant, quand les Américains disent « maintenant nous répondrons aux actions de l'Iran, dès lors qu'elles intentent aux intérêts américains dans le monde », ça veut dire qu'il y a un durcissement du dialogue, il y a un durcissement du propos de Joe Biden qui semble réaliser une inflexion, passer d'un discours somme toute conciliant à un discours plus ferme, de dire si les frappes iraniennes se poursuivent, que Téhéran le sache, maintenant les Américains répondront. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.